France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge féminine de France, 120 ans après la loi de 1905, que signifie être laïque en franc-maçonnerie féminine ? Une émission préparée et présentée par Isabelle Debuchy. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour notre dernière émission de l'année, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Tout d'abord, Liliane Mirville, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France.
Bonjour.
Et ensuite, ma seconde invitée est Rosemarie Darmon, présidente de la Commission nationale de la laïcité pour la Grande Loge féminine de France.
Bonjour.
Nous allons évoquer ensemble aujourd'hui ce que signifie être laïque en franc-maçonnerie féminine. Alors Liliane, c'est tout d'abord à vous que je m'adresse. Que représente la laïcité pour les francs-maçons de la Grande Loge féminine de France ?
Alors pour répondre à votre question, Isabelle, beaucoup de personnes pensent souvent à tort que ce terme laïcité signifie être contre les religions. Eh bien, je dirais non. Être laïque, ce n'est pas être en opposition aux religions. C'est tout simplement comprendre que l'appartenance religieuse relève de la vie privée. Il faut savoir que la Grande Loge féminine de France, adogmatique et apolitique, a fait sien le principe de laïcité et l'a inscrit dans sa déclaration de principe il y a plus de 20 ans. Je cite, « Elle proclame son indéfectible attachement au principe de liberté, tolérance, laïcité et de respect des autres et de soi-même. » Donc pour moi, la laïcité apparaît comme un principe fédérateur et un vecteur de cohésion entre nous toutes et tous. Je dirais aussi faire partie de la Grande Loge féminine de France en tant que femme initiée, libre et engagée, c'est adhérer du fait aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité.
Alors, je vous entends Liliane, je voulais savoir s'il peut y avoir différentes perceptions de la laïcité.
Oui, il peut y avoir des perceptions variées de la laïcité. Par exemple, certaines sont favorables à la connaissance du fait religieux, comme l'avait proposé Régis Debray au ministre de l'Éducation nationale en 2002. D'autres s'attacheront plus volontiers à une stricte séparation. Ainsi, nous nous reconnaissons toutes dans ces différences qui nous enrichissent et nous travaillons ensemble dans la concorde avec celles qui croient et celles qui ne croient pas, celles qui souhaitent un engagement plus visible dans la société et celles qui préfèrent approfondir leur chemin initiatique par la spiritualité laïque. C'est aussi dans et par le respect de la liberté absolue de conscience que la franc-maçonne, bien sûr, travaille en loge, se construit en confiance et en sérénité.
La République laïque, Liliane, qu'est-ce que c'est au juste ?
D'abord, la République laïque repose sur des valeurs et des principes. Alors que les valeurs ont une vocation personnelle et morale, les principes ont une portée plus normative et des conséquences juridiques. Et en tant que franc-maçonne et citoyenne, nous devons réaffirmer nos valeurs de liberté, égalité, fraternité, qui sont aussi celles de la République. La laïcité est bien sûr un des piliers. Il est essentiel de rappeler que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale.
La République donc assure la liberté de conscience.
La République assure la liberté de conscience, mais aussi elle garantit la libre exercice des cultes dans le respect de l'ordre public. Elle ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Ce principe est un principe cardinal de la laïcité que nous fêtons cette année à l'occasion des 120 ans de la loi du 9 décembre 1905, dite loi de séparation des églises et de l'État. Je voudrais rajouter aussi que la laïcité s'est construite au fil du temps. Il faut savoir que le principe de laïcité est l'aboutissement d'une démarche de liberté initiée par l'esprit des Lumières. Le principe s'affirme comme un droit dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte souligne que chaque individu est de façon inaliénable en membre à part entière de l'espèce humaine. Mais la loi de 1905, c'est aussi la progression de l'idée de laïcité de la sphère privée à la sphère publique qui, en supprimant la notion de suggestion, nous a ouvert à nous les femmes la marche vers notre émancipation et notre accès à la citoyenneté.
Alors maintenant, je m'adresse à Rosemary, Rosemary Darmon. Pourquoi diriez-vous, Rosemary, que la loi de 1905 est souvent qualifiée de loi liberté ?
Oui, effectivement, c'est la matrice de plusieurs libertés. En premier lieu, bien entendu, je vais parler de la liberté de conscience. C'est vraiment le concept phare de la loi 1905. C'est une notion qui nous permet de croire ou de ne pas croire, de changer de religion ou non, d'en avoir une ou de ne pas en avoir. La liberté de conscience, c'est une loi qui ne surgit pas comme cela. Elle était pratiquée bien en amont. Galilée a pratiqué la liberté de conscience. Et si je mets en regard, par exemple, le droit de vote par rapport à la loi 1905, il aura fallu attendre 40 ans, en 1944, que nous avons enfin eu l'accord pour que le droit des femmes nous soit donné, au prétexte que les femmes étaient plus influencées par l'Église que les hommes.
Tout à fait. Oui, donc vous parliez du droit de vote des femmes, mais je voulais que vous précisiez ce que vous entendez par liberté de conscience, Rosemary.
Rien de tel que de donner des exemples, je pense. Je commencerai par l'IVG. Il a fallu aussi un temps pour que cette loi soit accordée. Et puis, il y a eu la séquence 2 pour qu'elle soit dans la Constitution. Et encore avec une formulation qui ne me convient qu'à moitié. Parce que il est indiqué la liberté de et non le droit de. Ça ne veut pas dire la même chose. Plus proche de nous, je veux aussi vous parler de cette loi qui se débat en ce moment, mais déjà depuis quelque temps, sur la fin de vie. Là aussi, ça fait appel à la liberté de conscience. Et encore une fois, cette notion de temps va encore s'étirer probablement. Bon, une loi avant qu'elle se fasse jour.
La laïcité, Rosemary, permet-elle d'assurer la coexistence, selon vous, la coexistence harmonieuse des convictions de chacun ?
Alors là, voyez-vous, je parlerai de liberté d'expression et de liberté de presse aussi. Elles sont étroitement liées à la loi 1905, bien qu'elles soient antérieures. Et je crois que le mieux, c'est d'illustrer par des exemples récents. Et je vais peut-être vous parler plus des libertés académiques. Parce que nos universités sont attaquées. Je songe aux tentatives de censure, par exemple, qu'on essaye d'imposer aux listes de professeurs à proscrire au prétexte de leurs idées, ou aux tentatives d'annulation de conférences, vous voyez. Eh bien, heureusement, il faut savoir qu'il y a un arsenal juridique qui empêche ces dérapages et qui protège la personne.
Vous avez parlé de la liberté de conscience. Qu'en est-il de la liberté de la presse ?
Il en va de même. Nous avons une longue tradition de la critique et de la caricature. La loi est claire là-dessus. On peut critiquer une religion, mais non la personne qui la pratique. C'est simple. Et en fait, il faut retenir cette notion qui est vraiment fondamentale. La loi 1905 renvoie le religieux à la sphère privée et l'État gère le temporel. Alors, une laïcité bien appliquée, bien expliquée, c'est une loi qui protège l'individu, qui l'émancipe même, et qui structure une société et qui peut tendre, je pense, vers une bonne entente, vers une coexistence harmonieuse, comme vous le formuliez dans votre question.
Alors Liliane, pouvez-vous nous dire, puisque nous parlons vraiment de laïcité, de liberté de conscience, de liberté de la presse, en quoi, selon vous, permet-elle cette laïcité l'égalité des droits entre les femmes et les hommes?
Pour nous, francs-maçons de la Grande Loge Féminine de France, je dirais que la laïcité ne garantit pas directement l'égalité entre les femmes et les hommes. Son rôle, bien sûr, c'est d'assurer la neutralité de l'État et la liberté de conscience. Elle veille évidemment aussi à qu'aucune norme religieuse, parfois inégalitaire, n'influence la loi civile qui, elle, affirme l'égalité. J'insiste sur le fait que la laïcité a pour vocation d'affranchir des tutelles. Ça, c'est extrêmement important, d'affranchir des tutelles. Elle permet l'émancipation. L'émancipation historique, qui fait de la femme sujet, une citoyenne. L'émancipation philosophique, qui libère l'esprit de la superstition et du carcan théologique et religieux. L'émancipation politique, enfin, celle de l'État par rapport aux églises. La laïcité est un outil privilégié dans nos combats parce qu'elle proclame non seulement la liberté, mais aussi l'égalité. C'est un maître mot qui nous concerne toutes. C'est notre rempart derrière lequel je pense que nous pouvons et nous devons faire entendre nos voix de femmes. Ajoutons que celles et ceux qui se battent pour une cause de la femme n'ignorent pas qu'elle est aussi celle de l'homme et que défendre les droits des femmes, c'est aussi, je pense, défendre les droits de l'homme. Justice et liberté, ou si l'on préfère, les droits humains.
Rosemary, la liberté de conscience, selon vous, est-ce qu'elle permet de créer un espace suffisant pour se construire librement?
Oh, en grande partie, oui, oui. Mais il n'y a pas, je pense, que la liberté de conscience, hein, même si, comme nous l'avons évoqué, cela reste le concept phare de la loi. C'est peut-être plus aussi la combinaison de tout ce qui a été dit précédemment, la possibilité, je dirais, voilà, d'avoir un dialogue, d'instaurer un dialogue avec l'autre, d'aller vers l'autre.
Alors Liliane, quels sont en conclusion les défis à venir au regard de la Grande Loge Féminine de France?
Alors vous savez que la laïcité est fortement menacée. De ce fait, nous sommes face à des vrais défis. Il s'agit de bien comprendre et de bien faire comprendre notre héritage historique et le modèle de laïcité. Mais la laïcité ne peut pas tout. Elle doit aussi répondre à de nouvelles situations. Je citerai la pluralité des religions, les tensions dans l'espace public, et c'est pourquoi notre vigilance et la vigilance s'imposent. Le 120e anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 nous rappelle combien la vie dans une république laïque est un bien précieux qui nous conforte en toutes circonstances à espérer en une humanité meilleure.
Alors Liliane, aimeriez-vous ajouter quelque chose, puisque notre tâche est loin de s'achever?
Moi je rajouterais que nous, francs-maçons, femmes initiées, libres et engagées, nous sommes déterminés à mener le combat contre l'obscurantisme. Notre engagement nourri dans notre travail de réflexion au sein de nos loges sera sans faille pour promouvoir et défendre le principe de la laïcité consubstantielle de la République. Et bien sûr, notre tâche est loin d'être achevée.
Donc, aimeriez-vous conclure par une autre phrase très rapide, puisque au sein de la GLFF, nous avons une commission d'études de haut niveau?
Tout à fait. Ce qu'on appelle la commission de haut niveau, c'est la commission conventuelle ou commission nationale de la laïcité. C'est une commission qui sert de courroie de transmission, qui est une force de proposition et de réflexion à cet égard. Et il faut savoir qu'elle organise un colloque ouvert au grand public samedi 13 décembre au Palais du Luxembourg à Paris. Il a pour titre « Démocratie et laïcité, regard de francs-maçons ». Et bien sûr, nous espérons vous retrouver nombreux à ce colloque. Je vous invite à vous y inscrire sur le site grand public de la Grande Loge Féminine de France, adresse dédiée, glff.org. Et bien sûr, au plaisir de vous voir.
Merci Liliane, merci Rosemary. Je recevais aujourd'hui Liliane Mirville, grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France, et Rosemary Darmon, présidente de la Commission nationale de la laïcité. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre obédience, rendez-vous sur notre site grand public et où vous retrouverez des informations sur nos événements. Merci de nous avoir écoutés. C'était une émission de la Grande Loge Féminine de France présentée par Isabelle Debuchy. À la réalisation, Philippe Baudouin, accompagné aujourd'hui à la technique de Dalia. Et à Claire Poinsignon pour la préparation. Je vous remercie tous. Je vous donne rendez-vous en mars pour une prochaine émission autour des droits des femmes. Bon dimanche et à très bientôt. Thank you.